Auditrice des programmes du studio Kalangu, bonsoir, bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des formes de l'esclavage moderne, c'est la prostitution ou l'exploitation sexuelle à des fins commerciales des jeunes filles au Niger, ampleur et perspective. Au Niger, comme dans d'autres pays de l'Afrique, la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle existent. Ainsi, on trouve dans certains quartiers de Niamey et dans d'autres régions du Niger, des maisons closes où des femmes utilisent des jeunes filles soumises à l'exploitation sexuelle. Alors, la prostitution est-elle un métier librement choisi ou une contrainte imposée? Comment est la situation au Niger? Comment les juridictions du Niger protègent les jeunes filles au Niger? Quelles sont les possibles pistes face à ce fléau au Niger? Avec nous dans ce studio pour débattre de ces questions et bien d'autres, M. Jibo Seignalio, il est chargé de protection à l'Association nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention du crime à ANTD. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
El Hadji Hama Idi Sanoussi, il est magistrat et chef du département administration et formation à l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite à ANLTP. Bonsoir.
Bonsoir.
Enfin, M. Abdelkarim Issa, il est le chargé suivi évaluation et spécialiste aussi des questions du VIH-SIDA à l'ONG Songe Niger. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci d'être venu à la présentation de Fils Adam Sefo. Chers invités, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, veuillez nous donner une brève présentation de vos institutions respectives ainsi que leur mission. Je commence par vous, Jibo, Monsieur Jibo de l'ANTD.
Merci. Je remercie les studios Kalangu pour l'opportunité qui nous est offerte afin de venir dire de manière succincte selon le temps qui est imparti, ce que nous faisons et les perspectives que nous amenons. Donc, s'agissant de l'ANTD, comme vous l'avez si bien dit, c'est l'Association nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention du crime. Donc, au Niger, tout comme dans le monde, nous avons des partenaires avec lesquels notre association travaille. Et nous sommes membres affiliés de l'ECPAT International. ECPAT International, c'est un réseau de lutte contre la prostitution dans le monde.
Donc, en général, quelle est même la mission de votre association?
Notre association prend en charge des questions des enfants.
Voilà.
Des questions des enfants, de prévenir, comme l'a intitulé notre sigle, donc de prévenir des situations de crime, et de protéger aussi les enfants pour leur donner un épanouissement meilleur.
Merci à vous, Abdelkarim. L'ONG Songe, parlez-nous de votre...
Ok, merci madame. Donc, sinon Songe, la définition veut dire c'est soutien aux ONG à l'Est et au Sud.
Mm-hmm.
Et, mais comme parallèlement, donc, concernant la thématique d'aujourd'hui, la prostitution,
mm-hmm.
parce que nous, on voit la prostitution dans un angle de lutte contre les ISTVH-SIDA.
Voilà.
Et donc, par rapport à cette thématique, nous sommes financés par deux partenaires principaux qui sont le Fonds mondial,
mm-hmm.
qui nous appuie dans cinq régions du Niger, et un autre projet qu'on appelle FEV, Frontières et Vulnérabilité en Afrique de l'Ouest, qui intervient dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est financé par le Grand Duché du Luxembourg.
Mm-hmm.
Donc, ce sont les deux partenaires financiers et qui nous appuient dans la lutte contre le VIH au niveau pays.
D'accord. Monsieur El Hadji Hama de l'ANLTP, présentez-nous cette agence.
Merci, je pense qu'on est assez connu,
oui.
Et étant donné que nous existons depuis 2010, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite des migrants, comme son nom l'indique, il est pivot de la lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite des migrants. Et nous sommes représentés dans les 10 chefs lieux de juridiction. C'est-à-dire que nous avons des représentants dans toutes les régions, si vous voulez, du Niger. Et nous entreprenons, si vous voulez, des actions de sensibilisation sur la traite et le trafic illicite des migrants, des actions de renforcement des capacités, par exemple des formations à l'endroit des acteurs de la chaîne pénale. Nous tenons aussi des conférences, nous diffusons des sketchs, nous émenons aussi des études sur donc les phénomènes de la traite des personnes, du trafic illicite des migrants. Et pour la thématique sur laquelle on va débattre, effectivement, si vous voulez, l'exploitation de la prostitution, c'est une forme de traite, donc au sens de l'ordonnance 2010-86 du 16 décembre 2010,
d'accord,
donc relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger.
Et comme je le disais, donc aujourd'hui nous allons parler de la prostitution, l'exploitation sexuelle des jeunes filles. Nous avions tant bien que mal tenté à trouver des témoignages des jeunes qui sont dans cette activité louche. Malheureusement, nos efforts ont été vains. Néanmoins, celles avec qui nous avons pu discuter et qui ont gardé l'anonymat nous ont expliqué que la plupart ce sont des contraintes de famille qui les poussent dans cette activité, soit la pauvreté. Donc la prostitution ou l'exploitation sexuelle, monsieur Hamad, la LTP, comment vous pouvez définir cela?
En fait, je dois dire, si vous voulez, ou je dois préciser que au Niger, il n'y a pas d'infraction de prostitution en soi. Mais le code pénal nigérien, en ses articles 291 à 294, interdit certaines activités liées à la prostitution, notamment quand vous prenez le proxénétisme, quand vous prenez l'excitation ou l'incitation à la débauche. Il y a aussi l'exploitation de la prostitution d'autrui qui constitue une forme de traite au sens de l'article 2E10 de l'ordonnance 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger. Maintenant, l'exploitation de la prostitution, c'est vrai, j'ai parlé tantôt du proxénétisme.
Oui.
Au fait, le code ou le législateur nigérien, tout est réprimé le proxénétisme, donc qui est... dont la prostitution est impréalable, parce qu'il faut une prostitution pour qu'elle ait le proxénétisme.
Voilà.
Mais on ne donne pas la définition, si vous voulez, de la prostitution, qui, à mon sens, peut être définie comme, par exemple, le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération pour la satisfaction des plaisirs du public, quelque chose comme ça. Et il y a exploitation de la prostitution lorsque, par exemple, les filles ou les femmes sont contraintes d'exercer ce métier. Donc, on va en venir sur les différentes formes de proxénétisme et voir maintenant qui est proxénète. Vous allez voir si on fait le parallèle avec ce qui se passe actuellement chez nous. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes quand même qui peut-être seront inquiétées.
Et selon vous, est-ce qu'on peut considérer cette exploitation sexuelle des jeunes filles comme une des formes de l'esclavage moderne aujourd'hui?
Vous savez, en fait, c'est quand des personnes sont contrôlées, quand des personnes ne sont pas libres de leur mouvement, parce que c'est ce qui se passe dans les maisons closes. C'est ce qui se passe. Bon, en fait, ça, je parle de la prostitution connue, si vous voulez, par tout le monde, pas la prostitution clandestine qui est pratiquée par les jeunes filles d'aujourd'hui, en fait. Mais, en fait, quand vous prenez la prostitution qui est décriée aujourd'hui, c'est celle qui se passe dans les maisons closes. C'est-à-dire, les jeunes ne se cachent pas et on a librement accès. Sauf que, par exemple, ces personnes qui sont contraintes, par exemple, de le faire, c'est, si vous voulez, une sorte d'entreprise. Les jeunes femmes les font sous la surveillance, si vous voulez,
de leur chef.
À qui profite, si vous voulez, la prostitution. À ce moment, en fait, qu'on parle de l'exploitation sexuelle. Parce que nous, au niveau de l'agence, effectivement, quand nous planifions, si vous voulez, nos activités de sensibilisation, récemment, on avait fait un constat selon lequel donc les femmes migrantes sont, si vous voulez, il y a une vulnérabilité accrue.
Elles sont les plus exposées.
C'est donc on a mené une enquête sur la situation de ces femmes migrantes, au fait, pour mieux agir, si vous voulez, contre le phénomène.
D'accord. Merci à vous. Je reviens vers vous, monsieur Ejibo. Je rappelle que vous êtes le chargé de protection à l'Association nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention du crime à ANTD. Votre association, comment elle aborde cette question d'exploitation sexuelle des jeunes ici au Niger?
Ok, merci bien. Notre association, c'est une association, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est membre affilié de ECPAT International. ECPAT International, c'est un réseau qui lutte contre l'exploitation sexuelle. Et au Niger, nous avons un projet qui s'appelle Parle Parle, c'est participation des jeunes en Afrique pour un réseau de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Eh bien, aujourd'hui, on parle de la prostitution. Là, nous parlons de la prostitution des mineurs, des enfants, c'est-à-dire des enfants qui ont moins de 18 ans. Et comme le magistrat l'a souligné, c'est en fait des situations qui amènent ces enfants à aller vers la prostitution. Parce qu'aujourd'hui, le phénomène prend de l'ampleur. Quand vous voyez sur les rues des enfants qui sont arrêtés et qui sont en train d'attendre des clients, cela inquiète. Certes, c'est un phénomène que tout le monde regarde, tout le monde condamne, mais malheureusement, les gens n'agissent pas. Donc, à travers ce projet Parle, nous avons entrepris des démarches qui consistent à sortir la nuit. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle à notre niveau les maraudes. Donc, sortir la nuit, partir rencontrer ces enfants, essayer de discuter avec eux et mettre en place pour eux des activités. Après, bien sûr, des services qu'on donne, on met en place des activités telles que des activités socio-professionnelles et même la réinsertion scolaire. Donc, voilà de manière succincte comment nous agissons pour pouvoir sauver le maximum.
D'accord. Nous allons en venir plus en détail sur vos actions. Mais d'abord, de par vos enquêtes et autres, quelles sont selon vous les raisons de l'existence de ces pratiques ici au Niger? Quelles sont les raisons?
Les raisons sont familiales. C'est des raisons familiales parce que, effectivement, comme on l'a dit, ce sont des enfants qui se trouvent en situation de prostitution. Donc cela veut dire que c'était une situation qui a amené l'enfant dans la prostitution. Et ces situations peuvent être des situations de familles telles que des marâtres qui maltraitent, n'est-ce pas, l'enfant de leur coépouse, ou des parents alcoolos, ou même un enfant qui va grandir dans un milieu de débauche. Vous conviendrez avec moi qu'il va prendre ces pratiques. Voilà des scènes qui amènent, ou bien un enfant qui tombe en grossesse parce qu'il a été abusé par quelqu'un de la famille. Donc, l'enfant sera contraint de quitter la famille et de se retrouver dans la rue. Souvent même, c'est malheureusement ce qu'on constate, ce n'est même pas la pauvreté. La pauvreté ne peut occuper que peut-être 13% des enfants qui se trouvent dans la rue dans cette situation. Ce n'est pas la pauvreté. Comme on l'a dit, c'est une exploitation. Parce que lorsque vous agissez sur un enfant à travers la malice ou à travers des petits cadeaux, n'est-ce pas? Vous conviendrez avec moi que cet enfant sera influencé puisqu'il s'agit d'un enfant qui ne joue pas de tous ces... Voilà, donc même si la taille du corps est aussi grande, quand même cela n'explique pas que l'enfant a atteint la maturité. D'où on peut abuser, n'est-ce pas, de cette inconscience,
de
son innocence.
Voilà. Merci à vous, Abdoulkarim Issa de l'ONG Songe. Quelle est votre analyse sur cette situation ici au Niger?
Ok, d'accord, merci madame. Bon, j'aimerais apporter d'abord une petite précision.
D'accord.
Donc, pour nous, acteurs de la lutte contre les STVIH-SIDA, notre objectif principal n'est pas de condamner ou bien juger ceux qui sont dans la prostitution, donc surtout les professionnels de sexe que nous appelons les prostituées, mais généralement nous on les appelle professionnels de sexe pour ne pas être trop péjoratif. Et nous ne sommes pas là pour les condamner. Et donc notre action première, c'est de sauver ces personnes-là qui sont dans la prostitution en les informant d'abord sur les tenir et les conduites à tenir pour ne pas s'être infectés. Et par rapport aux IST, VIH et aux grossesses indésirées. Et deuxièmement, faire des actions de dépistage pour savoir déjà ceux qui sont malades, comment les orienter, comment les traiter pour qu'elles ne puissent pas contaminer leurs sœurs d'abord et encore les clients qui viennent vers elles. Donc c'est ça notre mission première. Et ce n'est pas d'aller directement pour les condamner. Voilà. Donc maintenant, l'ampleur, et comme il a dit mon collègue, en tout cas, d'après nos récentes études, et parce qu'on fait chaque année, on réunit tous les leaders des professionnels de sexe des 8 régions, on les réunit à Niamey pour faire le bilan de nos interventions, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que c'est bon pour qu'on puisse améliorer et qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes de jeunes filles qui sont dans la prostitution, qui intègrent la cohorte, comme nous le disons. Donc la première des choses, c'est que certes, la pauvreté, elle est toujours là. Hein.
Oui.
Elle est toujours là. La pauvreté amène beaucoup de jeunes filles à embrasser ce métier.
Mm-hmm.
Il y a également un aspect que nous ne devons pas ignorer, qui est la rareté de l'emploi. Aujourd'hui, la jeune fille peut avoir ses diplômes, mais elle ne peut pas facilement avoir un emploi. Donc, vous connaissez tous comme moi, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais les gens ne veulent pas en parler.
Mm-hmm.
Il y a également un aspect très important qui fait que de nos jours, cette activité a beaucoup plus de l'ampleur, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une petite fille de la troisième peut chez elle, sans sortir, avoir beaucoup d'informations sur la prostitution. Et elle a ses camarades pères, donc ses camarades qui vont l'orienter dans le système. Et également, vous
l'influence
voyez, exactement. Et il y a les films pornographiques qu'elle peut suivre sur son smartphone. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'influencer ces jeunes filles-là dans ce domaine.
Oui.
Et également, les parents certains parents qui ont laissé le guidon. Donc la fille, et certains parents disent même c'est la démocratie là qui a beaucoup changé les choses. La fille fait ce qu'elle veut, elle est libre. Même tu ne peux pas frapper, tu peux pas faire certaines choses à ta fille comme nos parents l'ont fait en ce temps, dans le temps passé. Donc c'est ces facteurs-là, si on les réunit, on va voir que vraiment ça prend de l'ampleur. Et nous avons fait une étude récente sur en 2019. Qui n'a même pas été encore publié, mais l'étude est terminée et nous avons priorisé les 5 régions comme le camarade juriste en a parlé par rapport à la migration. Donc la région d'Agadez a été concernée et nous avons vu beaucoup de choses dans la région d'Agadez par rapport à la prostitution. Donc peut-être nous allons en venir là-dessus.
Oui.
Nous avons ciblé 5 régions phares où la prostitution est de très grande mise dans notre pays.
Sur le cas des jeunes filles qui sont employées, si on peut le dire, ou logées par des vieilles dames dans des maisons closes, Jibo de la NTD l'a expliqué, soit c'est par innocence, on abuse de leur innocence. Comment comprendre cela vraiment?
Pour les jeunes filles qui sont dans des maisons closes, moi, il doit avoir ses raisons.
Oui.
Mais nous, vous savez, il y a deux types. Le juriste a parlé, on les a catégorisés. Il y a des prostituées clandestines. Une clandestine, elle peut être une jeune fille comme une grande personne. Il y a des grandes personnes qui vivent dans la clandestinité, qui font la prostitution clandestine. Ce ne sont pas des enfants, c'est des personnes mûres. Mais elles ne veulent pas s'afficher pour que les gens sachent qu'elles pratiquent cette activité. Mais il y en a des grandes personnes.
Mm-hmm.
Et il y a celles qui sont affichées, qui sont dans les maisons closes. Donc, nous, au début même de nos interventions, on a tenu compte de cette loi. Qui stipule que si la personne est majeure, donc elle est responsable.
Oui.
Donc nous travaillons avec celles qui sont majeures, donc qui sont responsables et qui acceptent qu'elles sont prostituées, qu'elles vivent dans la clandestinité, qu'elles font la prostitution. Mais néanmoins, il y a des jeunes filles qui sont prostituées et mineures et clandestines.
Mm-hmm.
Donc celles-là, certainement, elles ne devraient pas partir de vrai. Pas partir de notre cohorte, mais on est obligé, parce que quand la personne embrasse le métier, on est obligé de l'informer. Attention, il y a un danger qui est là-bas. Si tu n'es pas mieux informé, il ne faut pas aller. C'est un danger. Si tu es libre, tu acceptes, tu recules, ou bien tu continues dans cette activité. Cette lancée. Mais comme c'est une question de droits humains, on ne peut pas forcer la personne.
Ah, vraiment.
Exactement.
Voilà,
exactement.
Merci bien. El Hadj Ahmad de la NLTP, dites-nous quels sont les textes juridiques qui protègent les enfants ici au Niger d'abord.
Bon, les textes, si vous voulez, ils sont nombreux. Mais comme je l'ai dit, en ce qui concerne la prostitution, donc des enfants ou si tu veux, vous voulez la prostitution, l'exploitation de la prostitution.
Oui.
Donc je vous ai dit que au fait chez nous la prostitution n'est pas réprimée en tant que telle, mais c'est l'exploitation de la prostitution, tout comme par exemple le proxénétisme et l'incitation à la débauche. Par exemple, quand vous voyez ce qui se passe, par exemple aujourd'hui, la raison c'est les parents. Il a parlé un peu des facteurs d'incitation et d'attraction. Moi, je me dis que, au fait, avant de venir de parler, si vous voulez, des différentes formes qui peuvent être réprimées, donc je pense que pour parler, si vous voulez, des facteurs d'incitation, il y a la première cause. Moi, je me dis que c'est la pauvreté. C'est-à-dire la pauvreté. Il y a aussi le système de famille qui est défaillant. Par exemple, un père qui démissionne face à son enfant. Donc, mais la fille n'a pas d'autre choix que d'aller se prostituer. Et tout comme, si vous voulez, il y a le manque d'éducation. La plupart de ces jeunes filles qui se prostituent n'ont aucune éducation. En fait, elles pensent que c'est normal. Elles ont raté la base. Donc, c'est vraiment, il y a un manque d'éducation. Et il y a aussi, et surtout, vous avez parlé, par exemple, des filles qui sont dans des familles aisées, mais qui pratiquent cela. En fait, il y a ce qu'on appelle les messages d'appel. Généralement, c'est par curiosité, certaines se lancent dans ce métier, par plaisir, en fait. Moi, je pense que nos parents, il faut, c'est-à-dire, responsabiliser les parents, parce que quand vous prenez, la loi dit, par exemple, est proxénète, c'est-à-dire celui qui vit en connaissance de cause avec une personne se livrant habituellement à la prostitution. Mais quand on voit aujourd'hui, par exemple, les filles qui ont des portables de grande marque, qui s'achètent des motos alors que le père n'a pas de revenus, ou c'est même les filles qui assurent, excusez-moi, la popote. Mais imaginez, comment en tant que parent, on peut justifier cela? Donc, quelque part, on est responsable. Quand, par exemple, c'est-à-dire, je donne l'exemple, par exemple, de nos filles, les filles là, qui sortent la nuit et qui ne reviennent que tard ou au petit matin. Mais les parents, un parent à 22h, ta fille est absente. Comment tu peux le justifier? Et elle revient le matin avec des objets de valeur ou de l'argent et tu ne la demandes pas. Donc, ça veut dire qu'on peut te considérer, par exemple, au regard, si vous voulez, de notre texte comme étant un proxénète. Voilà, c'est même une circonstance aggravante le fait qu'on soit un parent ou un tuteur. Par exemple, quand vous prenez aussi les gens qui reçoivent des aides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution, c'est aussi un proxénète. C'est-à-dire, on peut le qualifier aussi de proxénète. Donc, je me dis que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi, si vous voulez, les tenanciers des hôtels. Quand vous voyez aujourd'hui le phénomène appris de l'employeur grâce à la facilité que ces jeunes filles obtiennent, l'accès.
Les
auberges, par exemple. Ce n'est pas la vocation, si vous voulez, des hôtels. C'est-à-dire, normalement, quand tu viens, il y a une fiche que tu remplis. Mais de nos jours, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a toujours deux ou trois chambres qui sont réservées pour les passes. Si vous voulez, c'est ça même qui a donné plus de l'ampleur, plus de la facilité, si vous voulez, à ce phénomène. Donc ça, même la loi l'a prévu, par exemple. On peut bien les poursuivre sur la base de la qualification des proxénètes aussi. Donc, c'est pour vous dire que le phénomène, si vous voulez, il est visible, mais le plus souvent, les gens ne connaissent pas la réalité, comment ça se passe, les raisons. Donc, il faut vraiment un travail, si vous voulez, de sensibilisation. Il faut peut-être expliquer à travers Songe, à travers la NTD, expliquer, nous le faisons à l'agence. Je vous ai dit qu'on avait constaté, effectivement, que les femmes migrantes sont très vulnérables à l'exploitation sexuelle. Nous avons commandé une étude, donc, qu'on n'a pas encore restituée. Et je pense que ça nous a amené quand même à renforcer nos activités de sensibilisation de la région et à développer certains thèmes lors de nos journées de mobilisation, donc célébrées le 28 septembre de chaque année. Donc nous avons vraiment des initiatives agressives face au phénomène de l'exploitation de la prostitution des jeunes filles.
Mais qu'est-ce que la loi même prévoit dans de telles situations pour les auteurs?
Au fait, pour ce qui est de la répression, par exemple, le proxénète en cours, une peine de 6 mois à 3 ans et une amende de 50 000 à 5 millions de francs. Donc, il y a même des circonstances, si vous voulez, aggravantes. Par exemple, lorsque la peine est aggravée de 2 à 5 ans, dans le cas où, par exemple, le délit a été commis, je l'ai dit, par le père, la mère, ou à l'égard d'un mineur, comme ce qu'on voit tous les jours, ou si l'auteur, si vous voulez, ou si ça a été commis à l'égard de plusieurs victimes, ou à l'égard de plusieurs auteurs. Donc ça, c'est vraiment une circonstance aggravante. Et par exemple, j'ai parlé un peu, si vous voulez, des hôtels. On peut même, si vous voulez, retirer la licence, ça, c'est des peines complémentaires. On peut toutefois également confisquer les biens ayant servi, si vous voulez, à faciliter la prostitution. Par exemple, tout ce qui est bien mobilier. Donc, on peut le confisquer. Et évidemment, ce qui peut peut-être beaucoup dissuader les tenanciers, c'est peut-être les peines, si vous voulez, d'amende.
D'accord.
Voilà.
On peut faire face à certaines situations. Une personne qui trouve le cas d'une jeune fille qui est vraiment employée par une vieille dame dans ses maisons, ou bien la jeune fille même qui est, comment dirais-je, exploitée, qui veut vraiment sortir de ce cadre-là, qui on peut saisir dans de telles situations, vraiment, pour dénoncer cela?
Bon, je pense que, vous savez, la relation entre le proxénète et sa victime, c'est une relation, si vous voulez, qui est très intime. Je vous parlais dans le cadre de la prostitution qui se fait à grande échelle. Donc là, dans ce cas, par exemple, les tendances, par exemple, quand vous prenez les femmes nigériennes qui sont piégées dans le cadre de la migration au Niger, ces femmes ont tendance à croire que leurs proxénètes, c'est-à-dire les gens qui les exploitent, ont tendance à les protéger. Parce que généralement, elles sont conditionnées, elles sont formatées. c'est-à-dire chez des femmes qui n'ont pas de contact avec d'autres personnes, chez des femmes, c'est-à-dire tout le langage il est connu au fait, on ne te donne pas l'accès à d'autres milieux. Et tu es confiné, donc ce qui fait qu'elles ont du mal, par exemple, à se confier, à dénoncer.
Oui.
Maintenant, pour le cas, par exemple, de nos filles qui veulent, parce que moi, je pense que c'est une volonté, il faut sensibiliser.
Mm-hmm.
Parce que, par exemple, ce qui fait la NTD,
oui.
C'est-à-dire ce qui fait aussi Songe. Donc, je pense qu'il faut sensibiliser nos soeurs qui sont tous les soirs au niveau des hôtels, au niveau des bars. Donc, c'est les sensibiliser, par exemple, et aussi sensibiliser les parents.
D'accord.
Voilà. Et la dénonciation, au fait, c'est-à-dire on ne peut pas se substituer. C'est vrai, on peut porter à la connaissance des autorités telle situation d'exploitation, par exemple, si on a connaissance.
D'accord.
Voilà.
Merci à vous, Monsieur Jibo. Il y a de cela 1 à 2 ans, une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un groupe de jeunes filles du 5e arrondissement de Niamey qui ouvertement disaient qu'elles se prostituent. Les filles de Dalobon, je crois. Comment comprendre cela? Comment est-ce que vous percevez cette situation? Des jeunes filles qui ouvertement déclarent qu'elles sont de la prostitution.
Donc, je pense que cette situation a choqué l'opinion. Mais malheureusement, ce n'était pas que cette situation. Parce qu'en réalité, la vidéo qui avait circulé, c'était juste par hasard que cette vidéo a circulé et les gens ont vu. Mais sinon, il y a des choses...
Malheureusement, elle a touché presque tout.
Oui, mais ce qui se passe au-delà de ce qu'on a vu, ça, ce n'est que juste une petite partie de ce qui se passe quotidiennement à Niamey. Quand tout à l'heure, le magistrat disait qu'il y a des chambres dans les hôtels déjà qui sont spécialement réservées pour des questions comme ça, c'est inquiétant. Mais lorsqu'il s'agissait de partir dans les hôtels, vous conviendrez avec moi que c'est des personnes qui ont les gros moyens qui les font.
Mm-hmm.
Parce que pratiquement, ils sont protégés ou bien ils ont des rangs. Et même les responsables d'hôtels aujourd'hui, ils sont complices parce qu'ils trouvent leur compte. En fait, c'est une question d'intérêt. Mais bon, au vu de la loi, c'est des proxénètes parce qu'ils vivent du fruit ou du beurre d'une prostitution.
Dans un conseil de ministres, il a été ordonné de prendre des mesures face à ces situations. La décision, est-ce que vous pensez qu'elle est mise en vigueur ou bien vu que la situation ne fait que s'empirer?
Justement, la loi a toujours existé, mais il faut toujours qu'on prend quelqu'un sur main dans la sac pour pouvoir les juger. C'est des situations qui se passent en réalité, il faut mener des investigations.
D'accord.
Et quand on mène des investigations, on va trouver. C'est vrai, tout de suite, on ne peut pas aller vers la loi. Mais nous, à notre niveau, en tant qu'ANTD, si l'enfant désire, parce que généralement on parle dans le cadre de l'exploitation sexuelle des enfants, lorsque l'enfant désire aller vers les juridictions, nous, on l'accompagne pour une assistance juridique. Donc, et on lui montre aussi les voies et moyens pour faire recours.
Je viens vers vous, M. Boulkarim Issa de l'ONG Songe. Dans un article écrit et publié par le studio Kalangou, il ressort qu'en 2018, les services de la protection de l'enfant ont enregistré à Maradi 68 cas d'abus sexuels et 2 cas d'exploitation sexuelle d'enfants, ce qui représente une violation fondamentale des droits des enfants. Quelle est votre réaction?
Et par rapport aux abus et aux abus sexuels des enfants, franchement, je ne peux pas me prononcer pour donner certaines choses parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas.
D'accord.
Mais je sais que parfaitement, je sais, je suis toujours presque à Maradi. Je connais, je sais que ça, je peux vous le confirmer, que la prostitution est très, très, très développée à Maradi. Si nous prenons la ville de Maradi et Firji, donc dans la région de Maradi, c'est les deux zones-là qui sont les plus touchés par la prostitution. Il y a un grand nombre vraiment de prostituées et de professionnels du sexe.
D'accord.
Au niveau de cette zone.
Voilà. Et on sait que les jeunes filles qui sont dans ce métier sont exposées à plusieurs maladies. Pouvez-vous nous citer les maladies auxquelles elles sont exposées, les risques sanitaires, quoi?
Oui, donc les maladies les plus fréquentes que auxquelles sont exposés les professionnels de sexe. C'est d'abord les IST, c'est les infections sexuellement transmissibles. Et après les infections, nous avons le VIH. Et si nous prenons la dernière enquête de seconde génération qui a été faite dans le pays, les professionnels de sexe ont un taux de prévalence de 16%. Mmh. Donc si nous prenons 100 professionnels de sexe, il y a 16 qui sont infectés. Mmh. Donc ça veut dire que c'est vraiment très élevé en dehors de cette maladie. Et il y a aussi les grossesses indésirées. Et parce que quelqu'un, on s'est posé même cette question, une professionnelle de sexe qui tombe enceinte. Mmh. Et nous ont fait savoir, elle tombe enceinte, c'est par leur propre gré. Mmh. Donc il y a quelqu'un qu'un parmi leurs clients qu'ils appellent le Dadiro en Hausa. Mm-hmm. Donc c'est leur protecteur, c'est leur client fidèle, c'est leur amant en quelque mm-hmm. sorte. Donc elles font un enfant avec cette personne. D'accord. Donc c'est les trois fléaux en dehors des violences. Mm-hmm. Parce qu'elles sont vraiment, il y a un autre facteur, les juristes doivent le savoir, les professionnels de sexe subissent une violence de type surtout physique, mm-hmm. sexuelle et morale. Donc vous voyez ça aussi, les gens n'en parlent pas.
Et votre ONG, quelles sont les actions que vous menez vraiment pour avoir un changement?
Nous, notre mission, c'est de les sensibiliser, les éduquer, les prendre en charge du point de vue médical, psychosocial et autres, ou bien dénoncer quand elles sont victimes d'abus de physique et d'abus sexuels ou bien violences physiques. On propose, on fait de certaines formations pour permettre à ces personnes-là qu'elles peuvent, il y a des voies d'issue pour que celles, surtout, qui sont rentrées dans cette pratique, peuvent sortir. Et ça, c'est l'appel que je lance à tous les acteurs, mm-hmm. que vous soyez du gouvernement, du secteur privé, que vous soyez de la société civile. Si aujourd'hui, le pays a développé des mm-hmm. actions d'activités génératrices de revenus, les PS-là qui sont de cette activité-là, beaucoup vont ressortir. Mm-hmm. Si le pays avait développé la formation professionnelle, pédicure, manucure, couture, mm-hmm. hôtellerie, ainsi de suite, il y a beaucoup de choses que ces jeunes filles-là peuvent faire. Yeah. L'État peut les aider ou bien d'autres partenaires peuvent les aider pour que ces filles-là sortent de cette pratique. Mais si on ne va pas à ce niveau, toujours la prostitution-là va continuer.
Et en termes de changement, est-ce qu'elles sont nombreuses celles qui ont vraiment changé suite à vos actions de sensibilisation et autres, qui se sont reconverties?
Bon, moi, sinon, la reconversion, je vous dis que c'est pas facile. Oui. Si on n'arrive pas à mettre en œuvre tous ces piliers-là, oui. le secteur privé, il faut améliorer la scolarisation de la jeune fille, mm-hmm. parce que la fille qui va à l'école en classe du 4e, 5e, on l'exclut. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va devenir? Vous voyez, tout ça, c'est des facteurs qui vont ramener. Mais mm-hmm. maintenant, nous, notre changement qu'on a constaté, et vous allez les dernières données vont le confirmer, et on a fait la récente enquête au niveau pays pour mm-hmm. voir la prévalence et la connaissance en matière des IST-VIH. Ça a complètement diminué, mais ça, il faut que l'enquête qui sera publiée va le prouver.
D'accord. Merci à vous, El Hadj Ahmad de l'ANLTP. Selon vous, quelles peuvent être les autres conséquences? Est-ce qu'il y a d'autres conséquences qu'en cours, ces jeunes qui sont exposés à cette pratique?
Conséquence, si vous voulez, c'est d'abord, comme l'a dit mon ami de songe, mm-hmm. au fait, c'est que c'est l'exposition à ces maladies.
Oui, risque sanitaire.
Voilà, le risque sanitaire. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que, c'est-à-dire, c'est comme une drogue. Mm-hmm. C'est-à-dire, ces filles ont tendance à se transformer en proxénètes. Mm-hmm. Parce que quand on est rompu dans le métier, on mm-hmm. a tendance à attirer certaines jeunes filles, au fait. Mm-hmm. Donc, c'est l'effet de contagion. C'est surtout ça qu'il faut peut-être prévenir. Mm-hmm. Et aussi, vous avez parlé un peu, par exemple, j'ai assisté récemment à une étude faite par Songe. C'est même à la suite de cette étude, par exemple, que ça a été révélé qu'il y a vraiment des établissements, des hôtels, mm-hmm. donc, qui font office, si vous voulez, donc des maisons de passe ou des chambres de passe, au fait, mm-hmm. qui ont des chambres de passe. Mm-hmm. Moi, je pense que il faut faire un travail de sensibilisation. Mm-hmm. Il faut faire un travail de sensibilisation. Il faut responsabiliser les parents surtout, mm-hmm. parce que c'est vraiment ça a contribué beaucoup à la dépravation de nos mères.
De mœurs, oui.
C'est d'aller voir, si vous verrez instamment, si vous voulez, dans ce lieu, même actuellement, vous allez voir des filles rôder tout autour. Mm-hmm. Donc, à la recherche des clients. Mmh. Moi, je pense que c'est peut-être pour les ONG faire un travail de plaidoyer. Mmh. C'est-à-dire, peut-être ne serait-ce que pour voir comment améliorer, si vous voulez, nos textes à la matière. Oui. Et, par exemple, pas forcément, par exemple, quand vous prenez le détournement des mineurs chez nous, si vous voulez, on peut peut-être voir, reformuler, voir, par exemple, on fixe un âge pour dire que, donc, faire des rapports sexuels avec une fille de tel âge, donc, c'est réprimé par la loi, par exemple, au lieu, par exemple, parce que vous avez parlé des cadeaux, donc les filles sont appâtées pour qu'au moins qu'elles aient confiance pour leur loverboy, comme on l'a dit, leur amant qui les entraîne, si vous voulez, dans la prostitution. Moi, je pense que c'est vraiment ça qu'il faudrait. Si vous voulez, il y a aussi, si vous voulez, les mauvaises compagnies. Par exemple, je ne peux pas comprendre, par exemple, qu'on connaît deux ou trois enfants des jeunes établissements, des grandes filles, et que de temps à autre, qu'on ne puisse pas faire un tour pour au moins savoir si elles sont assidues, tout ça. Moi, je pense que c'est surtout ça qu'il faut redoubler de vigilance par rapport aux parents. Et il faut aussi, si vous voulez, appliquer ce que je venais de dire. Sensibiliser les parents, parce que je vous ai dit qu'un parent peut être poursuivi pour avoir en connaissance de cause, ok, et accepter donc des produits de la prostitution de son enfant ou de toute autre personne. Et aussi sensibiliser les établissements, enfin les hôtels, si vous voulez, leurs responsabilités, parce que je ne peux pas comprendre, on a tous des enfants, donc ça veut dire que c'est comme si vous voulez, les enfants ne sont pas à l'abri de cette pratique. Donc il faut, si vous voulez, carrément interdire ces genres de choses qui se passent aujourd'hui, qu'on voit tous les jours.
Merci à vous. Monsieur Gibault de l'ANTD, comment venir à bout de ce problème de société sans bien sûr passer par la manière forte à cause de la misère? Comment?
Il faut, pour éradiquer ce fléau, il faut que d'abord, parce que je l'ai dit tantôt, que cette situation, c'est une situation de famille. Il faut d'abord que les parents prennent leurs responsabilités en éduquant bien sûr leurs enfants, en les contrôlant jusqu'à la maturité. Et ça, c'est le premier aspect. Et le second aspect, il faudrait que l'autorité, qui est l'État, aussi prenne ses responsabilités en créant les conditions de mettre des lois et dispositions tendant, n'est-ce pas, à faire reculer un certain nombre d'individus qui agissent dans ce sens. Et le troisième aspect, c'est un aspect de sensibilisation de la communauté. Les médias doivent jouer leur rôle qui est d'informer et de former la société. Je pense que si toute cette chaîne fonctionne normalement, et nous allons arriver au bout de ces fléaux. Sans bien sûr oublier l'apport des ONG que nous sommes, de créer et de renforcer toujours les efforts que nous sommes en train de mettre en place et de mettre des dispositions pour prévenir des cas, n'est-ce pas, de violences sexuelles, mais aussi d'accompagner ces violences sexuelles. Parce que lorsque vous conviendrez avec moi que le constat qui est général, c'est que l'abus sexuel vient toujours d'une personne de proximité, parce que quelqu'un qui n'est pas dehors. Et le premier essai sexuel, c'est surtout dans la famille. C'est soit un cousin, soit un répétiteur. Et donc, nous, au niveau de l'ONG ANTD, nous avons agi dans ce sens en partant vers les établissements publics, à Niamey et à Téra, pour des séances de sensibilisation, et allant à montrer aux jeunes filles, aux jeunes garçons, parce que l'exploitation sexuelle ne concerne pas que les jeunes filles, malheureusement. Il y a aussi des jeunes garçons qu'on appelle communément PD, qui sont aussi au niveau des sites de prostitution, qui se prostituent tout comme des femmes. Donc, à ce niveau, nous montrons aux jeunes, n'est-ce pas, élèves des établissements, quelles sont les formes d'exploitation sexuelle et comment les prévenir. Parce que c'est un enfant, il ne peut pas parler. Il ne peut pas dire on m'a touché. C'est malheureusement des tabous dans nos sociétés de parler de l'exploitation, de parler du sexe même en famille. Donc du coup, l'enfant va vivre avec son mal jusqu'à arriver à un moment où la frustration ou même arriver à la révolte. Donc du coup, vous voyez, ces formes d'exploitation sexuelle sont dans ces différents types, malheureusement, de formes que nous venons d'énumérer tout de suite. D'accord. Et nous osons espérer que si nous agissons ensemble, nous pourrions arriver au bout des fléaux.
Merci à vous. Abdelkarim Maïssa de l'ONG Songe.
Oui, en tout cas, moi, mon cri de cœur, parce que nous parlons de prostitution, et pour réduire, certainement, on ne va pas dire mettre fin à la prostitution, c'est même pas possible. Mais au pays, on peut faire quelque chose pour réduire, et surtout pour les nouvelles filles, les nouvelles jeunes filles qui rentrent dans cette activité. Ce que je disais, c'est de développer des activités génératrices de revenus. il faut développer la formation socio-professionnelle. Il y a beaucoup de filles qui ne font rien, elles ne connaissent, elles n'ont pas de métier. Les parents sont pauvres, souvent elles sont obligées d'aller dans cette voie qui est très facile. Donc si on développe l'activité génératrice de revenus, la formation professionnelle, pour celles qui ont étudié, elles ont leur diplôme, faciliter l'emploi. Il faut faciliter l'emploi, développer le secteur privé. Dès que tu viens, tu as une fonction facilement. Donc tu ne seras pas tenté par quelqu'un qui va, avant de te donner même un stage, il faut qu'on abuse de toi. Donc si ce secteur-là également est très bien développé, vous allez voir que ça peut aller très vite. La scolarisation de la jeune fille, il faut responsabiliser, comme on le dit chaque fois. Il faut que la fille aille loin dans ses études. Il faut qu'elle, comme ça, elle aura beaucoup d'informations. Elle n'est pas à la maison, donc elle va continuer à aller à l'école. Donc, si nous arrivons vraiment à jouer ces rôles, et les parents, donc les leaders religieux également, vont jouer leur rôle en prêchant. Nous avons de très belles exemples de femmes sur lesquelles on peut prendre de modèles. Les Mariam, les Fatima, autres là. Et même dans le christianisme, il y a la chasteté. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, ils ont un programme qui est très, très spécialisé sur la chasteté, où il y a des filles qui sont vierges, qui ont des bourses de l'État pour aller suivre des études à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de choses que nous, on peut mettre en place petit à petit pour voir vraiment. Surtout, moi, j'ai peur pour les nouvelles là. Elles n'ont aucune expérience. Elles rentrent dedans. Ça peut être fatal pour ces filles. Voilà. On a dépisté une jeune fille de 14 ans qui est positive. Ça m'a fait très, très mal. Ça m'a fait très, très mal parce qu'elle n'a pas d'information. Elle s'est lancée dans cette pratique et voilà, pop. À l'âge de 14 ans, tu es séropositif. Vous voyez, c'est sérieux. Maintenant, l'État, la société civile, les partenaires techniques et financiers, tout le monde, on ne doit pas rester de l'autre côté en train de critiquer, mais on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a ma voisine, elle est là, elle n'a pas mangé, elle n'a même pas un kilo de riz chez elle, ou même mon voisin, au lieu de partager le peu que j'ai avec ma voisine ou mon voisin. Donc, quand je les vois, sa fille, je ne fais que critiquer alors que je peux aider. Donc, vraiment, il faut que nous revenions à notre temps ancien. Il faut que les Africains, on sache que vraiment nous sommes des Africains. On doit aller sur ce plan-là pour s'entraider.
Merci à vous, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangou. Nous sommes au terme de cette émission. Et comme vous l'avez si bien entendu de par les interventions de nos différents invités, la prostitution sous la forme d'exploitation sexuelle est bien présente. Le phénomène est présent, mais il est inquiétant de nos jours. Il faut donc une intensification des séances de sensibilisation, plus de vigilance et une prise de conscience de ces jeunes pour vraiment limiter la dégradation de la situation. Il faut également développer des activités génératrices de revenus pour ces dernières, pour vraiment les occuper. Et c'est la fin de cette émission. Nous étions dans ce studio avec El Hadj Hamma Idi Sanoussi. Il est magistrat et chef du département administration et formation à l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite ANLTP. Merci d'être venu. Monsieur Jibo Seini Alio, il est chargé de protection à l'Association nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention du crime ANTD. Merci à vous également.
Merci.
Abdelkarim Issa, chargé suivi, évaluation et spécialiste des questions du VIH-SIDA à l'ONG Songe Niger. Merci de nous avoir honorés de votre présence.
Merci à vous, madame.
À la présentation, c'était Nafis Adam Sirfo. À la technique, Issa Kalaoli. À très bientôt pour une nouvelle thématique sur le studio Kalaoli. Au revoir.